Flagrant Soul, cap sur l'âme du groove. Bonsoir à tous, vous êtes sur Campus Paris, il est 21h, vous écoutez Flagrant Soul. Bienvenue dans cette deuxième émission de la saison, deuxième de notre nouveau format raccourci mais tout aussi efficace. Et puis deuxième en équipe au grand complet avec un petit nouveau qui est derrière la console, Gaëtan, bienvenue.
Hello Gaëtan.
Voilà, alors vous bienvenue l'entendez pas, mais il parle avec ses mains ce soir. C'est lui qui lancera tous les sons, donc on le remercie. Les gars, ça va bien?
Écoute,
peut-être...
Super, ouais. Super,
en forme. Bah, deuxième émission.
C'est quoi le mood du moment?
Alors le mood du moment, moi j'ai un concert, un voyage et puis un peu de politique. Alors le concert c'était Spain, c'était dimanche dernier au Petit Bain, pour les 30 ans de leur premier album The Blue Moods of Spain. C'est un groupe qui a été formé par Josh Haddon, qui est bassiste et chanteur. C'est aussi le fils de Charlie Haddon, qui est aussi bassiste de jazz beaucoup plus connu. Il a monté le groupe, quoi. Il a fait son premier album quand il travaillait dans un magasin de disques à Los Angeles. Et bah voilà, 30 ans après, ça n'a pas pris une ride, la salle était pleine à craquer. Pas mal de cinquantenaires comme moi, hein, plutôt des gens comme ça.
C'est toujours un peu compliqué hein, quand dans une salle de cinquantenaires.
Mais on était bien serrés là. En tout cas, une grande beauté mélancolique, un esprit de jazz et un style qu'on pourrait qualifier de slowcore. J'avais jamais vu ce terme.
Slowcore. Alors là, il faut que tu m'expliques un peu ce que c'est que le slowcore.
Ah ben c'est des choses très très douces et très langoureuses et lentes. Voilà. Un petit voyage aussi en Italie pendant les vacances. J'ai eu la chance d'aller à Naples et à Turin, de visiter pas mal de coins et des églises, mais aussi des magasins de disques. J'ai cherché pas mal de musique italienne, notamment un morceau de Pino Donjo, je ne sais pas si vous connaissez.
Ma quale idea.
Mais exactement,
voilà.
Il connaît. Et donc aussi Piero Miliani, Mana Mana, ça aussi tu dois connaître. Et puis Lucio Battisti, et finalement je suis reparti avec Lady Vray que tu avais chroniqué Simon le mois dernier. Et
j'étais italienne.
Moins italien, mais de qualité aussi.
C'est ça. Et puis c'était aussi les élections du maire de New York, je sais pas si vous avez suivi ça, Zoran Mamdani. 33 ans, ex-rappeur, aussi homme politique progressiste, plutôt à gauche, démocrate, voire socialiste, comme on dit aux États-Unis. Donc c'était assez intéressant, je suis tombé tout d'abord sur une petite vidéo, une espèce de blind test qui est réalisé par Jack Coyne sur son podcast Trackstar Podcast. Et donc il lui a fait écouter plusieurs sons et à chaque fois il devait retrouver qui était derrière le son. C'était plutôt des morceaux de groupes new-yorkais. Il a reconnu assez facilement Jay-Z, Alicia Keys, les Strokes aussi, donc complètement différent, on n'est plus dans le hip-hop. Jack Addis, Beastie Boys, Frank Sinatra, Mobb Deep, et il a juste buté sur Billy Joel. Moi j'aurais
quand
buté aussi.
Une
hein.
Grosse faute de goût quand on brigue la mairie de New York. Enfin, en l'occurrence, c'est bon, il a été élu. Hein, donc voilà. C'est pas grave.
Ça lui a pas coûté trop cher.
C'est clair.
Donc il a aussi fait du hip-hop quand il était plus jeune. Son nom de scène, c'était Mr. Cardamom. Donc sûrement en lien avec ses origines à la fois indiennes et puis il a vécu aussi un peu en Ouganda, en Afrique. Et donc il a été aussi assez soutenu par pas mal de groupes de hip-hop, notamment le Wu-Tang Clan, qu'il a été voir pendant son...
On en parlera tout à l'heure.
On en parlera tout à l'heure, ouais.
Voilà. Et puis d'autres groupes de hip-hop que je ne connais pas, mais que vous connaissez peut-être vous, The Lox ou Run the Jewels, et puis le rappeur Dave East du quartier de Harlem.
Tout à fait, des noms qu'on connaît. Moi, mon mood, il est quand même beaucoup plus électro, étonnamment, en ce moment.
Ça te ressemble pas, hein,
non, ça me ressemble pas, mais écoute, ça fait partie d'une exploration très intéressante avec un side project avec l'ami Joss, un side project qui s'appelle Flagrant Machine, et on va du coup faire notre première date mix all night long à l'alimentation générale le vendredi 28 novembre, 23h30, 4h30 du matin, donc prenez 2-3 espressos et un ou deux Bull pour tenir. On espère vous y voir. Vous pouvez trouver des liens vers les préventes sur nos stories Instagram du moment. Donc sur Instagram, on est flagrant_soul. Donc n'hésitez pas à venir nous voir et surtout venez danser avec nous parce que c'est un peu l'idée du projet.
Bah, carrément. Alors moi, mon mood, il est plutôt rap français avec une nouveauté.
par la mémoire dans ma âme, je crée des connexions. Pourtant je suis qu'un homme avec les défauts que nous leur connaissons. Le cœur l'emporte sur la raison, comme le climat qui se réchauffe l'emporte sur la saison. Dès le mois de juin on étouffe alors quand le soleil se couche. Mon pote il roule un petit avec une herbe douce. De quoi s'évader un peu quand on s'entriste à vie en écoutant Chili Gonzalez ou Eric Satie.
Alors voilà, on est assez peu coutumier de passer du rap français dans Flagrant Soul, mais quand c'est bien produit, bien écrit et que le flow est accrocheur, eh bien c'est un plaisir de vous faire découvrir cet artiste qui s'appelle Giorgio, un album qui vient de sortir qui s'appelle Gloria. Et en l'occurrence, je sais pas si vous avez reconnu le son de Chili Gonzalez qui était derrière en production, le morceau s'appelle The Smile. Et puis on va tous s'enchaîner avec la vie selon Flagrant Soul. Alors avec le Wall of Death, DJ Snake a remis au goût du jour et pour la jeune génération le concept du joyeux bordel musical durant lequel les corps bondissent et se déchaînent. Mais pas besoin de perdre trois côtes ou de se casser un cartilage de nez pour se déchaîner sur de la musique. Un bon jump suffit, à l'instar de Jump Around de House of Pain que nous avons exclu de notre sélection pour illustrer cette nouvelle rubrique de la vie selon Flagrant Soul. Et au vu de la sélection musicale de chacun, je crois qu'on va pas mal voyager dans différents univers musicaux. Et c'est toi qui commences, Bertrand, ce soir.
Alors Jump, moi effectivement on avait dit qu'on l'excluait, et puis Jump Around aussi, mais je suis quand même parti un peu de ce morceau puisque Jump Around, morceau d'House of Pain, a été produit par Muggs. Et donc il y avait le mot jump, forcément on n'est pas le maître, c'était pas assez subliminal. Donc il avait été à la base composé pour Cypress Hill, qui avait pas envie de rentrer en studio et qui avait envie de peut-être de fumer des pétards et de manger des mushrooms. Il a aussi été proposé à Ice Cube, qu'il a aussi refusé. Et finalement, c'est House of Pain qui l'a fait. Donc c'est un morceau assez universel, Insane the Brain de Cypress Hill, sorti en 1993, donc l'année où je passais mon bac, qui pourrait exprimer une certaine névrose, puisque si on traduit les paroles, c'est taré dans la membrane, taré dans le crâne. C'est une expression qui était utilisée par les gangs quand ils se faisaient des trucs un peu déjantés. Ça raconte la rivalité avec une autre bande de rappeurs qui leur avait manqué de respect et donc c'était un peu leur revanche. Je crois que c'était une chanson de Chubb Rock dont il s'agissait. Et puis voilà, comme je disais, c'est un morceau universel assez crossover où on se retrouve sur le dance floor. Moi j'ai choisi ce morceau parce que finalement c'est un morceau où vous pouvez avoir à la fois des punks, des gens qui écoutent du heavy metal, du hip hop, un peu tous les styles. Et ça, je trouve que c'est un morceau où on a envie de sauter.
C'est vrai que pour le coup, Cypress Hill peuvent se targuer d'être les seuls à avoir fait le Hellfest, hein, le seul groupe de hip hop à avoir fait le Hellfest. Hein.
Parce que sinon, j'avais d'autres idées de groupe, mais bon, c'était pas forcément dans notre style.
Were you trying to get crazy with this, eh? Don't you know I'm loco?
Love. going insane.
Try to snatch my crops. These pigs wanna blow my house down. Head underground to the next town. They get mad when they come to raid my pad. And I'm out in the night, too scared. Yes, I'm the pirate pilot of this ship. If I dip with the ultraviolet dream, hide from the red light beam. Now do you believe in the unseen? Look, but don't make your eyes strain. A nigga like me is going insane.
Classique qui fait bien jumper.
Un club banger.
Exactement, comme disent les jeunes. Alors moi, je vais pas vous passer de la musique de jeunes. Je suis parti dans une direction un peu différente. On va écouter Bittori avec le morceau Bittorina Bibigna. je jump sur ma chaise tout seul.
C'est un pur marathon ton truc là.
Ah mais c'est clair. Alors, si je reprends quand même l'énoncé qu'on s'était fixé, faire jumper tout le monde à la fête du village. Faire jumper tout le monde, ça veut dire les vieux aussi. Enfin les anciens, excusez-moi. À la fête du village, intergénérationnelle, fête du village, bah, qu'est-ce qu'on, à quoi on pense ? Quoi de mieux que l'accordéon ? Exemple parfait de l'instrument populaire, l'instrument roi pour animer les fêtes de village en France, en Allemagne, au Brésil et au Cap-Vert, d'où vient notre morceau. Le morceau qu'on a entendu, c'est un morceau qui exemplaire pour un style musical qui s'appelle le Funana, qui est une musique et... Alors, pas de...
Pas de dérapage.
C'est une musique et une danse du Cap-Vert qui a été interdite à l'époque par la dictature car trop engagée dans les paroles et trop subversive et puis surtout trop rassembleuse. C'est une musique irrésistible dans les fêtes de village locales et ça bougeait trop et donc voilà, faut pas fédérer les gens.
Un peu grivois.
Voilà, on va dire ça. Donc moi j'ai adoré le côté rapide avec une grosse basse, c'est vraiment un morceau sautillant. Je trouve qu'il y a une énergie folle dedans et il est d'une efficacité redoutable, au point peut-être le risque de faire planter les pacemakers des anciens du village. Donc ça c'est un peu le risque. Et il y a même un petit côté électro, je trouve, dans le tempo élevé, la mélodie ouais. répétitive comme un mantra.
Exactement.
Est-ce que toi, du coup, Simon, ça t'a parlé, cet aspect électro ?
Alors moi je crois que dans l'énoncé, j'ai oublié un truc, c'est la fête du village. Et vous allez comprendre tout de suite. We'll be right back. écoutiez Vitalik avec ce Poney Part 1, extrait d'un album assez emblématique de Vitalik qui s'appelle OK Cowboy. Alors c'est vrai que la musique électronique moderne nous a habitués au phénomène du drop, cette longue montée en puissance clairement identifiable qui finit par un véritable changement de rythme à grand renfort de lignes de basse. Alors c'est un phénomène qui est censé susciter un peu d'hystérie sur la piste de danse, allant de pair avec un déchaînement des corps. Bon, ça a été, je pense, c'est devenu assez prévisible et un peu échaudé par tous les producteurs de musique électronique actuelle, qui en abusent même outre mesure, je dirais. Ce qui est intéressant dans le morceau de Vitalik, c'est pas du tout la même montée en puissance. Cette montée en puissance, elle est progressive, lente et progressive. Le climax, pour parler à la mode des jeunes.
À l'américaine.
Voilà, le climax, en fait, il arrive sans cri et gare et sans aucune rupture. Et tout d'un coup, on se retrouve à jumper sur le morceau sans l'avoir, sans en être véritablement conscient. Donc voilà, ça c'est Vitalik, un très grand producteur français, le pape, un des papes de la musique électronique française.
On pourrait presque sauter sur le poney, non?
Ah. Oui. Pas de maltraitance animale, s'il vous plaît.
Mais justement, le morceau se rapporte à la maltraitance des poneys dans les fêtes foraines.
Ah, bah je savais pas.
Les fêtes foraines, mais pas les fêtes de village.
Non. Voilà.
Donc ça va. C'est le moment de passer à c'est l'heure de passer au vote.
Ouais.
Qui vote pour qui? Alors vous avez plutôt voté pour quel morceau, les gars?
Moi, je vais voter Bitori parce que ça me rappelle le Brésil, la musique MPB, musique populaire où tout le monde danse.
Ben, moi, de manière assez surprenante, je vais voter aussi pareil.
Ah, mon Dieu.
Mais parce que ça nous replonge réellement dans l'ambiance
village
une américaine. On a l'impression d'être là-bas. Une fois qu'on l'écoute, on est là-bas.
Alors, je vais pas voter pour moi parce qu'on n'a pas le droit, mais je crois que je vais voter pour Vitalik. Donc, pour toi, Simon, parce que ça fait toujours plaisir. Un bon Vitalik bien vénère.
Bon, c'est bien, c'était pas l'école des fans aujourd'hui. On a tous voté des trucs
différents. Bon. C'est l'heure de la question improbable. La question improbable ce soir est: Alan Toussaint est-il le plus grand musicien américain que tu ne connais pas? Bon, c'était la Toussaint, du coup Alan Toussaint, association d'idées, ça vaut ce que ça vaut, je suis désolé. Voilà.
Alors, c'est là que je l'ai pas vu venir. Hein.
Bah, et moi non plus, voilà, du coup. Petit sondage rapide hein, autour de la table. Alan Toussaint, ça vous dit quelque chose?
Alors, à part le fait que c'est un très grand producteur, je crois que je suis incapable de nommer un seul titre de sa part.
Moi je connais un petit peu, mais je ne serais pas trop capable d'en parler.
Bah voilà, merci, parce que ça illustre mon propos. Vous voyez, autour de cette table, on a beau être quand même féru de musique de longue date, même nous, on n'est pas experts du sujet, et c'est assez peu mérité par rapport à la stature de cet artiste. Alan Toussaint, c'est qui? Néo-Orléans, année pur jus. Alan Toussaint, il commence le piano à 7 ans, avec un voisin comme professeur de fortune. Il se place rapidement dans la longue lignée des grands pianistes de New Orleans comme Professeur Longhair, l'une de ses premières influences, et Phase Domino, que Toussaint remplace au piano pour son tout premier enregistrement en 57, hein, excusez du peu. C'est le début d'une carrière prolifique qui s'étalera sur près de 60 ans, rien que ça, de la fin des années 50 à son décès en 2015. Loin d'être un simple équilibriste sur touche ivoire et ébène, Alan Toussaint, c'est également un auteur, compositeur, interprète, producteur et arrangeur. Il a le don pour composer des mélodies qui vous collent au tympan de la première écoute tout en gardant un son foncièrement influencé par sa ville natale. Il exploite ses talents en solo, mais il fait aussi profiter toute la scène locale de son inspiration. D'abord rhythm and blues dans les années 60 avec notamment Lee Dorsey et Irma Thomas, mais aussi au début des années 70, il devient l'architecte de ce son funk de New Orleans avec ses collaborations avec les Meters ou encore Dr. John. Ses compositions, elles voyagent bien, puisqu'elles sont reprises par les Stones, Grateful Dead, Ringo Starr, The Who. Elles connaîtront aussi un regain de notoriété dans les années 90, avec l'avènement du hip-hop qui les sample à tour de bras. Et comme si ça suffisait pas, hein, Toussaint y mène aussi une brillante carrière de directeur artistique et producteur dans des labels locaux, et puis son propre label Sunsou Records dès 65. Et il ouvre même le Sea Saint Studios en 73, son propre studio, où viendront enregistrer nombre de figures locales, mais aussi Paul McCartney et les Wings, Paul Simon ou encore Joe Cocker. Au fil des années, au gré de ces différentes casquettes, en fait, Alain Toussaint, ça a été le fil rouge de la scène musicale de la Nouvelle-Orléans pendant plus de 50 ans, et son influence, elle aura largement dépassé les limites de la Louisiane. Pourtant, quand on cite les grands musiciens américains, son nom y revient rarement parmi les premiers. Peut-être que c'est dû à une certaine insularité de la scène néo-orléanaise qui a influencé le monde entier depuis les premiers chants à Congo Square, mais qui n'en reste pas moins confortablement centré sur une culture locale avec ses propres codes. Peut-être aussi que c'est dû au caractère humble et réservé d'Alain Toussaint, hein, jamais un mot plus haut que l'autre, avec ses Southern manners, hein, ses bonnes manières propres aux gentlemen des États du Sud. D'où ma question improbable du jour. Alain Toussaint est-il le plus grand musicien américain que tu ne connais pas ? Alors pour réparer cette injustice et vous donner une idée du génie du personnage, je vous ai préparé un mix de quelques morceaux emblématiques du style Alain Toussaint à l'interprétation, à la composition ou à la production. On commencera par le funk crasseux des Meters avec leur classique Sissy Strut. On aura ensuite la voix de velours d'Aaron Neville sur l'énigmatique Hercules. Ensuite, on aura Alain Toussaint en personne avec l'émouvant Southern Nights. Puis il y aura Irma Thomas avec Ruler of My Heart qui a été plagié à l'époque par Otis Redding sur Pain in My Heart. On aura ensuite Ernie Cado avec un Here Come the Girls à la mélodie ultra efficace, et on finira par La Belle et leur tube Lady Marmalade dont vous reconnaîtrez le refrain immédiatement.
Cause the man is mean, but don't come another further. don't know the answer. Will come out in time. I might even carry some of your load right along with mine. Thank you, man, Mr. Flea, 'cause I must be Hercules. I must be Hercules.
But the girls are part of me. And oh, water, I your lady mama lie.
Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Voulez-vous coucher avec moi?
Saying her pool,
go on while she go
crashing low.
The
boys drank all that snack on your mind.
Go
on the black satin sheet where he started to freak.
Get ya, get ya, 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 da, da. Get ya, 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 here. Rosa chocolata, ya, ya.
Real lady mama lie.
Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Voulez-vous coucher avec moi?
Est-ce que Alain Toussaint mérite d'être un peu plus connu?
Carrément. Il mérite carrément et on voit qu'il y a plein de choses différentes dans les morceaux que tu nous as passés. Moi, il y a des morceaux qui m'ont fait un peu penser à un Quantique sur l'orchestra, sur la batterie. Des choses aussi, bah, le dernier un peu plus dansant. Donc oui, ça vaut le coup de creuser.
C'est assez impressionnant parce que c'est des morceaux qu'on connaît pratiquement tous. Et de se dire que cet homme-là...
Et c'est loin d'être les plus connus. Hein. J'ai fait exprès, à part le dernier, j'ai fait exprès d'aller chercher des trucs un peu ouais. Pas les plus évidents.
T'as pas passé Yes We Can, effectivement.
Et non, j'ai pas passé Working on a Coal Mine, et j'ai pas passé Get Out My Life Woman. Enfin, c'est... Voilà, impressionnant.
You love to hear the story, again and again.
Here's a little story that must be told.
You love to hear the story, again and again.
Alors, c'est l'heure de l'histoire flagrante. On va parler de duo aujourd'hui. L'origine latine du mot duo en italien. Principalement un morceau de musique composé pour être chanté par deux voix ou exécuté par deux instruments. Généralement de même nature, avec une distribution équitable du chant et de la mélodie entre les deux personnes. Souvent éphémère, parfois le temps d'une chanson ou d'un album, on pense à Gainsbourg et ses nombreuses muses, interprètes. Parfois un peu plus long aussi, on pense à Ike et Tina Turner, Sam and Dave, ou à Daft Punk aussi, hein, même s'ils chantaient pas beaucoup. Et puis aussi parfois, de belles histoires d'amour qui finissent pas toujours mal. Donc moi j'ai choisi un couple aujourd'hui, donc j'ai choisi Syreeta et Stevie Wonder avec le titre To Know You Is To Love You.
To know you is to love you, but to know me is not that way, you see. Yet you made me so happy that my love for you grows endlessly. I'm sad and feeling down. You always comfort me. When I'm sad and feeling down, you always comfort me.
To know you is to love you, is to see.
Strong.
morceau est sorti en 72 sur le premier album éponyme de Syrita. On la voit marcher en robe blanche sur la plage, avec le profil de son visage en arrière-plan. Alors Syrita Wright, c'est assez intéressant. Elle a été d'abord réceptionniste à la Motown au tout début, puis elle a été découverte par le trio HDH.
Holland Dozier Holland,
exactement, avec les deux frangins. Holland, donc les célèbres producteurs du label Motown. Et à ce moment-là, elle rencontre Stevie Wonder, et là, tout bascule. Ils se marient, ils ont une vingtaine d'années, elle est un petit peu plus vieille que lui, je crois qu'elle a 25, il a une vingtaine d'années lui. Leur mariage ne dure que 18 mois, donc c'est assez court hein, quand même pour un premier mariage, entre 1970 et 1972. Mais ça ne les empêchera pas de travailler ensemble, donc ça c'est assez chouette de voir que finalement, on peut garder une bonne relation, y compris dans le travail. Elle a fait pas mal de choses aussi pour lui. If You Really Love Me, par exemple, c'est elle qui l'a composé. Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours, qui est devenu l'hymne de campagne d'Obama en 2007, c'est aussi elle.
Je savais pas ça.
Et puis, ça a marché dans les deux sens. Il a produit ses trois premiers albums. C'est une belle osmose entre ces deux chanteurs.
Et une belle complicité qui a donc duré dans le temps.
Ouais.
Des super prods de Stevie Wonder, Baby Don't You Let Me Lose It, I Love Everything, Little Thing About You. Enfin, il y a des morceaux qui sont juste. C'est la période fast de Stevie Wonder. Hein, donc, écoutez si vous ne connaissez pas. Très beau duo et une voix vraiment singulière.
Ouais. Exactement.
Et le synthé aussi en intro, je ne sais pas si vous avez fait gaffe, le synthé Fender Rhodes. Et puis le petit effet aussi sur la modulation de sa voix avec le phaser qui donne un petit côté spatial. J'ai bien aimé aussi.
Bon, eh ben on va rester à Détroit, chez Motown, avec un artiste qui a commencé pour Motown à être tout simplement le batteur et pianiste de Stevie Wonder. Donc il s'agit de Marvin Gaye.
Le boss est exigeant.
Marvin Gaye, c'est une facette qu'on ne connaît pas forcément de lui. Marvin Gaye qui a fait une longue et courte collaboration, mais en tout cas intensive avec Tammy Terrell. Et ce morceau, alors je ne sais pas si je vais réussir à le dire, If I Could Build My Whole World Around You. Assez fascinante que ce duo formé par Marvin Gaye et Tammy Terrell. Deux artistes de légende que la musique a réunis pour une destinée mêlant gloire et tragédie, et un parcours en miroir. Avant de former leur duo, chacun des deux était fraîchement arrivé dans la ville de Détroit et repéré par la famille Gordy, qui gère le célèbre studio Motown. Et tous deux n'avaient pas réussi véritablement à percer, malgré leur indéniable talent. Il faudra attendre l'année 1967, un certain Harvey Fuca, ancien spécialiste du doo-wop, alors reconverti en producteur à la botte de Berry Gordy. C'est lui, Fuca, qui a eu l'idée d'associer Marvin Gaye, déjà considéré comme un sex symbole, à la voluptueuse Tammy Terrell, dont le charme avait déjà fait fondre la crème de la soul noire américaine, dont David Ruffin des Temptations et également James Brown. Donc la chimie est là. Leur complicité est puissante et indéniable. Alors, ils n'ont pas consommé.
Est-ce que ça nous regarde?
ils étaient réellement très très proches. Le duo se transforme alors en véritable bombe, enchaînant pendant 3 ans les premières places dans les charts américains. Mais le succès sera de courte durée. Tammy apprenant en 1968 être gravement malade pour décéder 2 ans plus tard. Marvin Gaye ne s'en remettra jamais complètement, l'entraînant dans une profonde dépression avec abus de coke, tentative de suicide. Et paradoxalement, c'est dans ces périodes-là les plus sombres de sa vie que Marvin a écrit aussi les plus grands chefs-d'œuvre de la musique soul. Et la preuve, c'est qu'en 1971, il sort What's Going On.
Ah, c'est une histoire vraie. Il s'en est jamais remis, c'est exactement ça. Il a eu des succès en duo après, enfin notamment. Il a chanté un petit peu à une époque avec Diana Ross, mais
ouais.
Ça n'a jamais été pareil.
Ouais. Et on considère que ça reste certainement une association, l'association de ces deux artistes, et sans doute ce que la soul a le plus produit de plus voluptueux et de plus sensuel avec ces deux artistes.
Tout à fait. Et quelque part, moi, mon choix fait un peu écho à ton choix de ce soir, puisque mon morceau de Method Man et Mary J. Blige reprend le refrain d'un hit de Marvin Gaye et Tammy Terrell. On va écouter tout de suite « I'll be there for you, you're all I need to get by ».
Shorty, I'm there for you anytime you need me. For real, girl, it's me in your world. Believe me, nothing make a man feel better than a woman. Queen with a crown that be down for whatever. There are few things that's forever. My lady, we can make war or make babies. Back when I was nothing, you made a brother feel like he was something. That's why I'm with you to this day, boo, no fronting. Even when the skies were gray, you would rub me on my back and say, baby, it'll be okay. Now that's real to a brother like me, baby. Never ever give my cootie away and keep it tight, alright? And I'ma walk these doors so we can live in a fat ass crib with thousands of kids. Well, like, you don't need a ring to be my wife. Just be there for me and I'ma make sure we be living in the effing lap of luxury. I'm realizing that you didn't have to funk with me, but you did. Now I'm going all out, kid, and I got mad love to give. You my nigga. Never showing your stuff off, boo. It be true, me for you.
That's how it is. I be your Noah, you be my Wiz. I'm your mister, you my missus, with hugs and kisses, Valentine cards and birthday wishes. Please be on another level of planning, of understanding, the bond between man and woman and child, the highest elevation, cause we above all that romance crap. Just show your love.
J'ai choisi moi ce duo pour quelque part son importance historique, hein. C'est peut-être pas la première collaboration entre un artiste hip-hop et une artiste R&B, mais c'est sûrement l'une des plus emblématiques. Alors, c'est un peu moins le cas aujourd'hui, mais le hip-hop ça a quand même longtemps véhiculé une image plus que discutable de la masculinité et des rapports hommes-femmes, hein, malheureusement. Il y avait vraiment ce côté, il faut être crédible auprès de la rue, la fameuse street cred, et ça dépassait tous les autres aspects. Il fallait surtout pas que le rappeur montre un peu des sentiments, il fallait juste qu'il soit dur et monolithique. Et donc du coup là ce morceau il change quand même un peu la donne. Tout commence en fait avec un premier morceau qui s'appelle All I Need, qui est sur le premier album de Method Man, sorti d'ailleurs il y a 31 ans jour pour jour. Sur ce morceau là, morceau dans l'esprit Wu-Tang, une version originale qui est sombre, et c'est un rappeur qui rappe le refrain, Street Life. Et pourtant, derrière cette façade dure du morceau original, bah, y a des paroles qui sont quand même assez belles de Method Man, une ode à sa compagne de l'époque, et le MC de Staten Island s'autorise à dévoiler une certaine vulnérabilité. Et là, du coup, bah, le label de l'artiste Def Jam fond sur l'occasion, tel un faucon sur sa proie, et se dit on va peut-être pouvoir passer, faire un remix un peu radio-friendly avec une chanteuse R&B. Alors l'artiste s'y oppose, hein, d'emblée. Il veut surtout pas passer pour le pretty boy, le lover boy qui rappe pour les midinettes. Il y a quand même eu des antécédents, hein, dans le hip-hop, qui étaient notamment LL Cool J, qui dès qu'il a fait le morceau I Need Love a instantanément perdu une partie de son public à l'époque, parce qu'il était vu comme un lover boy et plus crédible auprès des fans hardcore purs et durs de hip-hop. Bon, le label a quand même insisté, hein, force de discussion avec le MC et puis son producteur Reza. Bah, l'idée, elle finit un peu par faire son chemin. Pour le duo, on pense éventuellement à la chanteuse Mary J. Blige qui chante souvent sur des instrus un peu hip-hop. Mais pour accéder à elle, il faut passer par Puff Daddy, qui est quand même un redoutable businessman. Du coup, pour satisfaire les motivations business des uns et respecter l'intégrité street des autres, on coupe la poire en deux, ou plutôt on part sur deux poires, deux remix par les deux producteurs. Celui qu'on a écouté ce soir, c'est la version qui était taillée pour la radio, produite par Puff Daddy. Et le pari, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'il est réussi. Est-ce que la greffe, elle prend
carrément? Ouais, la greffe, elle prend carrément. Et, moi, j'ai une dernière question. Est-ce qu'il faut aller voir le Wu-Tang à Bercy en mars?
Toujours, toujours. Donc voilà, et du coup, c'est la fin de notre émission. La prochaine, c'est quand?
Alors, c'est samedi 13 décembre à 21h.
On vous dit au mois prochain, et puis bonne suite d'écoute des programmes de Campus Paris.
Bah allez, bonne soirée, bon week-end, ciao.
Bonne soirée.